Sur d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est demain que se termine la COP23, la conférence sur le climat qui se déroule en ce moment à Bonn en Allemagne. Et c'est un peu la conférence de la dernière chance avec l'accumulation d'études alarmantes et la sortie des États-Unis des accords de Paris. S'il est beaucoup question évidemment de Trump et de ses provocations, l'Allemagne revêt elle aussi les habits de mauvais élèves. Encensé comme champion de la protection de l'environnement, le pays ne devrait pourtant pas respecter ses engagements climatiques. Depuis Berlin, les précisions de notre correspondant Julien Méchaussi.
C'est un papier interne du ministère de l'Environnement qui est venu confirmer ce qui se murmurait depuis plusieurs mois. L'Allemagne ne sera pas en mesure d'honorer ses engagements ambitieux en matière d'émissions de CO2. Un objectif pourtant martelé par Angela Merkel lors de son dernier mandat de chancelière. Soit la baisse de 40% d'ici 2020 des émissions de gaz nocifs pour le climat par rapport à 1990. Le document révélé dans la presse allemande évoque au mieux une réduction qui dépassera à peine les 30%. En cause, la production d'électricité. Malgré le boom des énergies renouvelables, les centrales à charbon tournent à plein régime pour satisfaire la demande intérieure mais aussi les exportations. Ce retour du charbon s'explique notamment par la bonne santé économique du pays et l'augmentation de sa population. Un échec personnel pour Angela Merkel, présentée volontiers comme la chancelière du climat et qui a contribué à la bonne image du pays dans le monde. Et il ne faudra pas compter sur les négociations actuelles en vue de former une nouvelle coalition gouvernementale pour redorer le blason de l'Allemagne, des négociations très délicates entre conservateurs, verts et libéraux. Si les chefs de parti ont déclaré vouloir respecter les engagements climatiques, aucune trace de réelle feuille de route. Sur le nombre de centrales à charbon qui devront fermer ou encore sur la mobilité verte, les négociateurs se sont montrés incapables de trouver un compromis. Un sujet parmi beaucoup d'autres qui pourrait entraîner de nouvelles élections, faute d'accord majeur. Les Verts ont déjà qualifié l'échec annoncé des objectifs de protection du climat d'immense honte pour le pays.
Mauvais point pour l'Allemagne, mauvais point pour la France, également qui revoit ses objectifs de réduction de moitié de la part du nucléaire dans sa production d'électricité pour 2025. L'annonce de Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, date du 8 novembre et suscite depuis des commentaires passionnés. Mais quelle est la part du nucléaire dans le reste de l'Europe? Certains l'ont abandonné, d'autres veulent en sortir. Enfin, les derniers continuent d'en faire un élément important de leur mix énergétique. On fait donc le point avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors, les objectifs de réduction français étaient-ils vraiment réalistes ?
Il pouvait l'être en 2012 lorsque François Hollande a édicté cet objectif de ramener à 50% en 2025 la part du nucléaire dans la production d'électricité. Mais en 5 ans, pratiquement rien n'a été fait, pas même la fermeture d'un seul des 58 réacteurs français. L'annonce de Nicolas Hulot sanctionne donc une désastreuse gouvernance française, le pays restant le champion du monde du nucléaire. Même repoussé à 2030 ou 2035, l'objectif de 50% demeure ambitieux puisque l'atome produisait encore en 2016 72% de l'électricité nationale contre seulement 19% pour les énergies renouvelables et 9% pour les énergies fossiles. La France reste donc ultra dépendante du nucléaire. En même temps, elle est vertueuse en termes d'émissions de CO2 puisque le nucléaire n'en émet pas. Pour produire une même quantité d'électricité, notre voisin allemand émet 6 fois plus de CO2.
Quel est le panorama général du nucléaire en Europe ?
13 États de l'Union ne produisent pas ou plus d'électricité d'origine nucléaire. Certains en sont sortis il y a longtemps, comme l'Italie, ou plus récemment, comme les Pays-Baltes. D'autres, Irlande, Danemark ou Autriche, par exemple, ont renoncé depuis des décennies à mener à bien un programme nucléaire de production. Enfin, certains ne se sont jamais lancés, mais ont décidé de le faire à présent, comme la Pologne. Reste donc 15 pays producteurs d'électricité nucléaire. 3 d'entre eux ont décidé d'en sortir, la Belgique, l'Espagne et bien sûr l'Allemagne.
Daniel, cela se passe difficilement outre-Rhin, comme on l'a entendu il y a quelques instants avec Julien Méchaussi.
À la différence de la France, l'objectif fixé en 2011 par Angela Merkel après Fukushima d'un arrêt définitif de toute production en 2022 devrait être tenu puisque 8 des 17 réacteurs initiaux sont déjà arrêtés et la production d'électricité d'origine nucléaire est revenue de 22% en 2010 à 14% en 2016. Mais bien que la part des énergies renouvelables atteigne désormais 30% outre-Rhin, celle du charbon a été accrue et génère encore 42% de la production électrique. Résultat, l'Allemagne reste un gros pollueur et elle aura du mal à respecter ses objectifs climatiques. Cela montre la complexité de la transition énergétique.
Et le coût de la transition énergétique fait-il réfléchir les adeptes de la fin du nucléaire ?
C'est évident. L'Espagne, qui dès 1984 avait déclaré un moratoire sur la construction de nouveaux réacteurs, se trouve actuellement dans la nécessité de repousser la fermeture de certains de ses 7 réacteurs qui produisent 21% de l'électricité nationale. Cela malgré le fait que les renouvelables concourent pour 35% à la production. La situation est similaire en Belgique. La sortie progressive du nucléaire est programmée depuis 2003, mais la vie des centrales a été prolongée jusqu'à 2025. Sans être au niveau français, l'électricité belge dépend quand même à 55% du nucléaire.
Daniel, est-ce qu'il y a des pays qui continuent à miser résolument sur l'atome civil ?
Oui, plusieurs pays de l'Est comme la République tchèque et la Slovaquie, mais également des pays occidentaux, en particulier le Royaume-Uni. Après les années d'hésitation travailliste, le gouvernement conservateur a opté il y a quelques années résolument pour non seulement poursuivre, mais encore développer le nucléaire civil qui assure 17% de la production électrique. Les 16 réacteurs en fonction seront progressivement remplacés et l'objectif est d'atteindre en 2035 un tiers d'électricité d'origine nucléaire.
Et d'autres pays font le pari du nucléaire ?
Un pays en pointe du combat climatique comme la Suède, de longtemps nucléaro-sceptique, est redevenu depuis 2009 un adepte résolu de l'atome. Les 9 réacteurs en fonction produisent 42% de l'électricité du pays et la construction de 10 nouveaux réacteurs est programmée. En outre, pour soutenir la compétitivité du nucléaire, les taxes sur l'électricité vont être diminuées en 2019. D'ores et déjà, la Suède est un champion de l'électricité décarbonée puisque grâce à l'apport de l'hydroélectricité et de l'éolien, la production d'origine fossile n'est plus que de 1%. En Finlande, le schéma est à peu près similaire, même si l'électricité d'origine nucléaire ne représente que 32% de la production.
Ce qu'on comprend, Daniel, c'est que la sortie du nucléaire n'est donc pas la seule option.
Non, car certains estiment, comme les Scandinaves, qu'il est plus urgent de limiter le réchauffement climatique que de se prémunir contre un risque nucléaire aléatoire qui diminuerait forcément avec les progrès technologiques. L'autre défi non résolu est de faire en sorte que les énergies renouvelables produisent de l'énergie disponible, ce qui est loin d'être le cas de l'éolien, de l'hydrolien ou du photovoltaïque, car ces sources d'énergie restent intermittente. Les partisans d'une dénucléarisation lente jouent donc de ces arguments pour retarder l'abandon du nucléaire.
Daniel Vigneron de myeurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
C'est l'une des conséquences de l'urbanisation, mais aussi de la désertification des campagnes. En Europe, les sangliers se sont multipliés ces 30 dernières années. Le problème est aigu en Grèce, notamment dans la région de l'Épire, au nord-ouest du pays. Là-bas, les villages se sont vidés au fur et à mesure des vagues d'émigration vers l'étranger ou vers la capitale. Au fur et à mesure des années, la forêt a repris ses droits et les animaux sauvages se sont rapprochés des habitations. La main de l'homme ne serait d'ailleurs pas étrangère à cette évolution. Le reportage dans la commune de Zitsa par Charlotte Stenard.
La ferme de Takis Pavlos est posée au pied des collines de Gribovo, dans le nord-ouest de la Grèce. Il y élève 300 moutons. Il y a quelques années, il nourrissait ses bêtes avec son propre grain.
À cause des sangliers, j'ai dû abandonner ce type de culture. Et aujourd'hui, avec le trèfle, ils font la même chose. Ils creusent dedans, ils mangent le trèfle. J'avais environ une vingtaine d'hectares de maïs et de trèfle, et je n'étais pas le seul, mais ça ne donnait rien.
Aujourd'hui, sur le millier d'hectares du village, plus personne ne cultive de maïs. C'est donc un manque à gagner important pour les éleveurs qui, en plus, voient la sécheresse les priver de foin pour l'hiver. Pablo Scordas, lui, chasse les sangliers, fusil sur le dos, toki-woki et GPS en main. Avec ses amis, il est de sortie chaque week-end.
Ce qu'on entend, ce sont les chasseurs appelés padagas. Ils crient pour que le sanglier entende que de leur côté, il y a quelqu'un.
Malgré la chasse intense de ces dernières années, ce retraité a vu le nombre de sangliers augmenter de façon impressionnante.
Il y a 30 ou 40 ans, un groupe de chasseurs tuait 2 ou 3 sangliers par an. Aujourd'hui, on peut en tuer 30, voire 40 par an, voire 60 ailleurs.
Comment ça se fait ?
Les lieux étaient plus propres. Par exemple, cet endroit n'avait pas d'arbres parce qu'il y avait des bêtes d'élevage qui les mangeaient chaque année. Et on avait besoin aussi de bois pour l'hiver. Les bûcherons coupaient le bois, l'endroit était ouvert. Il n'y avait pas d'endroit où le sanglier pouvait se cacher pour se reproduire. Aujourd'hui, il peut se cacher partout.
Mais pour l'Office national des forêts, l'augmentation est surtout liée à la stratégie des fédérations de chasse. C'est ce qu'explique Manthos Papas, responsable de la chasse au bureau de Ioannina.
Le problème a commencé il y a environ une vingtaine d'années. Les associations de chasseurs ont commencé à libérer des sangliers qui, comme on s'en est rendu compte plus tard, n'étaient pas de sang pur. Ces cochons sauvages ont été libérés pour augmenter le nombre de proies, mais il n'y avait pas d'études sur leur ADN. Et le résultat, c'est qu'en réalité, il s'agissait d'hybrides entre des sangliers, sauvages donc, et des cochons apprivoisés. Et comme ce sont des hybrides, ils se reproduisent deux fois par an contre une fois auparavant.
Et comme ils ne sont pas très sauvages, ils s'approchent beaucoup.
Oui, ils se rapprochent des zones habitées. Imaginez qu'à Thessalonique, c'est un problème. C'est une très grande ville et les sangliers sont tout autour et provoquent des accidents. Et pas seulement là, partout.
La fédération de chasse de Ioannina dément, estimant qu'elle n'est pas responsable de ce problème, qui est devenu plus large qu'il n'y paraît. L'augmentation des sangliers s'est en effet accompagnée de celle d'un de ses prédateurs, le loup, qui décime aussi les troupeaux. Manthos Papas propose une solution qui, reconnaît-il, n'est pas forcément idéale.
Il faudrait que la période de chasse commence plus tôt et termine plus tard, qu'elle déborde sur la période de reproduction. C'est assez radical comme mesure, mais c'est ce qui doit être décidé pour faire diminuer les populations.
Charitakis Papayoannou, un biologiste de Ioannina, met en garde contre cette solution qui ne fait pas la distinction entre les différents types de sangliers. Grâce aux caméras qu'il a installées en montagne pour étudier le comportement des chamois, il s'est en effet rendu compte que s'ils avaient quasiment disparu, il existait encore quelques véritables sangliers sauvages.
Je pense que tout d'abord, il faudrait réaliser une étude pour déterminer si quelque part en Grèce, il y a des zones géographiques où il y a encore des sangliers normaux, où les hybrides ne sont pas encore arrivés. Et dans ces endroits, il faudrait mettre en place des mesures pour y consolider la présence des sangliers.
Ce biologiste préconise donc une chasse ciblée qui se concentrerait plus efficacement sur les sangliers hybrides. Mais selon Charitakis Papayoannou, pour que cette solution soit mise en place, il faudrait que la Grèce soit dotée d'un véritable système scientifique de gestion de la faune sauvage, ce qui n'est pas encore le cas selon lui.
Pour l'instant, ils ne représentent qu'une goutte d'eau au sein du système éducatif turc. Eux, ce sont les parents d'élèves qui font vivre un réseau d'écoles alternatives aux noms évocateurs. Une autre école est possible. Très loin du système classique qu'ils jugent trop disciplinaire, ces parents rassemblés en coopérative s'efforcent de créer des lieux où les enfants se sentent comme chez eux, où ils peuvent exprimer leurs goûts, leurs pensées ou encore leurs sentiments. À Istanbul, Anand Lauer s'est rendu dans une de ces écoles maternelles.
Il suffit de passer 10 secondes dans le bureau de la directrice pour comprendre que cette école n'est pas une école comme les autres. C'est la pause de midi et derrière le bureau, sur les genoux de la directrice, un petit garçon s'applique à faire des découpages. Au sol, deux de ses copains s'amusent avec de la pâte à modeler. L'école maternelle de la Tortue qui court est née en septembre 2016. Son ambition proposait une alternative au système scolaire turc, jugé trop hiérarchique, disciplinaire et doctrinaire. Les écoles du réseau, 5 à ce jour dans le pays, sont entièrement gérées par les parents d'élèves sous forme de coopérative. Elles revendiquent un fonctionnement qui met l'enfant au centre, stimule sa créativité et sa confiance en lui. Jana Nosden, la directrice.
Imaginons que notre sujet soit l'automne. Jamais un de nos enseignants ne se mettra face aux enfants pour leur dire « Alors, on est en automne, il se passe ci et ça, on s'habille comme ça ». Non, on va dans la rue, on regarde avec les enfants ce qui a changé dehors. On essaie de faire en sorte qu'ils découvrent et comprennent par eux-mêmes. C'est comme ça que nous appliquons le programme. Si vous forcez l'apprentissage, si vous vous contentez de dire les choses, par exemple, en automne, les feuilles jaunissent, l'enfant finira par oublier. Mais s'il ramasse lui-même la feuille et la colle dans son cahier, alors il gardera toujours en mémoire qu'en automne, les feuilles sont jaunes.
Dans cette école, pas de punition ni de récompense. Tout est autorisé, proclame le règlement, tant que l'élève ne nuit à rien ni à personne. 32 enfants sont scolarisés dans 3 classes d'une dizaine d'élèves encadrés par 2 enseignants. Ceux qu'on entend ici, ce sont les plus petits de la classe des ours pompons. Sur un parquet en bois, un enfant joue au domino, d'autres dessinent autour d'une table, une petite fille feuillette un livre. La maîtresse propose aux enfants de la rejoindre sur un tapis au milieu d'un cercle de coussins pour leur lire une histoire. Elle attend patiemment qu'un à un, les petits qui le souhaitent délaissent leur occupation pour rejoindre le cercle. Ici, rien n'est imposé aux enfants, explique Doigu Özüişçi, une enseignante.
Ce n'est pas comme dans les autres écoles maternelles où, par exemple, quand l'heure de la sieste arrive, on couche tous les enfants. Chez nous, si certains ne souhaitent pas dormir, ils continuent calmement leurs activités avec un enseignant pendant que l'autre veille sur les petits dormeurs.
Un fonctionnement très différent des écoles turques classiques où l'élève, quel que soit son âge, est soumis à l'autorité du personnel scolaire et à un programme officiel appliqué à la lettre. Ici, l'établissement dépend certes du ministère de l'Éducation, mais il interprète les programmes en accord avec ses principes. La directrice Diana Nusden.
Nous n'avons pas encore reçu la visite d'un inspecteur de l'éducation nationale. Mais lors de ces visites, davantage que le système éducatif, l'inspecteur vérifie que les procédures légales sont appliquées, que les registres sont à jour, que les enseignants sont correctement déclarés. Oui, nous avons un programme national à appliquer, mais du moment que nous respectons les thèmes et les délais, nous ne sommes pas tenus de l'appliquer d'une manière précise. Nous ne faisons rien qui aille à l'encontre de l'éducation nationale. Nous ne faisons qu'enrichir le contenu des programmes.
L'école est une coopérative. Cela signifie que tout, du loyer à la cantine que l'on entend ici, en passant par les salaires, est financé sur des fonds propres. C'est aux membres de la coopérative, les parents d'élèves, de boucler un budget qui avoisinera les 350 000 euros cette année. Et pour beaucoup de ses parents, actifs par ailleurs, c'est un travail à part entière. Ilke Kalaycı, membre dirigeante de la coopérative.
Le plus dur, c'est de rendre durable notre projet. On patauge encore un peu pour trouver des financements extérieurs. On ne veut pas s'adresser à de très grosses sociétés qui pourraient nous parrainer, car alors, elles auraient leur mot à dire sur notre mode de fonctionnement. On doit courir à droite et à gauche, aller voir des entreprises, mettre à profit notre réseau personnel, parler avec la mairie. On y consacre énormément de temps, vous savez.
Il n'y a pas que les questions d'argent qui occupent l'esprit de ses parents et de l'équipe dirigeante. Diana Nusden.
J'ai cette inquiétude. Ces enfants que nous élevons dans un cadre si démocratique et propice à la confiance en soi, auront-ils des difficultés dans une autre école, une école classique? J'aime à penser qu'ils sauront s'adapter et même qu'ils emmèneront avec eux la culture qu'ils ont apprise ici pour changer les choses ailleurs, une école après l'autre.
Merve Tilki, maman d'une petite Aïza, 4 ans, s'est aussi posé ces questions. Mais elle a décidé d'arrêter de s'inquiéter.
Ma fille aime tellement son école qu'au début, elle pleurait quand elle devait rentrer à la maison. Normalement, c'est plutôt l'inverse, non? Le projet « Une autre école est possible » n'est pas un simple slogan. C'est travailler à ce qu'une autre vie soit possible, une autre approche éducative. C'est former des enseignants différents pour qu'ils instruisent les enfants différemment et qu'un autre avenir soit possible. C'est ça notre objectif.
Ses parents pensent déjà à la prochaine étape, ouvrir à Istanbul une école primaire sur le même modèle, et prouver qu'en Turquie, une autre école est vraiment possible.
Merci de votre fidélité à la réalisation. Il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, le journal.